Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny, juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao! Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle preview, je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on s'occupe de quoi? Des Wizards et des Kings, deux équipes où il y a pas mal de choses à dire, plutôt négatives sur la saison qui vient de se dérouler, plutôt positives sur celles qui arrivent. Donc on démarre tout de suite avec les Wizards, c'est parti. The NBA is back. Saison bien compliquée dans la capitale l'année dernière. Tu finis 12e, 35 victoires, 47 défaites. Par où commencer? Il y a beaucoup de choses à dire, hein, j'ai dit, mais il y a énormément de choses à dire. Bon, déjà, fallait tourner la page Russell Westbrook, puisque tu as eu cet énorme trade avec les Lakers. Tu devais intégrer du Kyle Kuzma, du KCP, du Montrezl Harrell. Il y avait un bon chantier. Il y avait Dinwiddie aussi à intégrer. Il y avait un bon chantier. Tout ça avec un coach rookie qui prenait les commandes de cette équipe. Ok, ça c'est les bases, elles sont posées. Mais dès le début, ça fonctionne bien, puisque après un mois de compétition, les Wizards, ils sont premiers de la conférence Est. Tout le monde est en mode, c'est un truc de malade, mais qu'est-ce qui se passe? On l'avait vraiment pas vu pour le coup. Il n'y a pas un joueur qui explose vraiment. On en parlera bien sûr, Deni Avdija, Kyle Kuzma, ça fait de très très jolies saisons. Mais t'as pas, par exemple, Bradley Beal. On commence par lui, voilà, il fait une saison bien décevante, tant dans les chiffres que dans le body language, quoi. On voit que il est pas content d'être là. Alors il y a eu des rumeurs sur des trades machin, mais tu vois que je sais pas, il était pas heureux cette saison. Alors il a été blessé, il a joué que la moitié des matchs, mais en termes de body language pour un leader, c'était vraiment un gros point noir. Par contre, du coup, ça, la mayonnaise, elle prend quand même, en fait. Tu réussis à bien jouer. Et puis après, c'est la catastrophe. Fin novembre, je crois, à partir de début novembre, tu commences à perdre des matchs, et t'atterris à cette fameuse 12e place. Voilà, donc c'était pas ouf. Je l'ai dit, malgré les gars, on va faire les gars qui ont fait des mauvaises saisons d'abord, puisque t'as Dinwiddie, pas ouf, Davis Bertans, pas ouf. On a qui d'autre? Oh, c'est déjà pas mal. Bill aussi. Malheureusement, alors, pas vraiment la même chose, mais Rui Hachimura qui est pas là au début de la saison alors que tu comptais vraiment sur lui, qui est pas là, qui a des problèmes personnels, donc absent, qui jouera que la moitié de la saison. Très compliqué. Mais de l'autre côté, t'as un Kyle Kuzma, je le disais, qui fait une bête de saison. Je voulais juste retrouver les chiffres. 17 points, 3 passes et demi, 8,5 rebonds. À ses propres tirs, franchement, il a pris le statut de leader en fait dans cette équipe à partir du moment où il n'y avait plus Bradley Beal, c'était lui le chef. Donc ça c'était très très bien. Daniel Gafford qui a bien joué, KCP il s'est très bien intégré. En même temps, bon, KCP, j'ai envie de te dire, tu l'intègres partout, le mec il défend, il joue poste 2, poste 3, il défend de ouf, il tourne à 40% à 3 points, c'est nickel, ça passe partout. T'as, je l'ai dit aussi, Deni Avdija. Alors, saison de sophomore, saison intéressante. Franchement, après son année rookie qui était compliquée à cause des blessures surtout, là, c'était pas forcément attendu parce que c'est plutôt le côté défensif qui nous a bien surpris. Une bonne défense, plus un peu de scoring en sortie de banc. C'était franchement un poste qui lui allait parfaitement. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour sur, on va dire, en pointant les joueurs du doigt un petit peu. Corey Kispert, le rookie, qui fait pareil, une belle saison entre la sortie de banc et le poste de titulaire. Mais voilà, tu dégringoles au classement, t'as un tout petit move à la trade deadline. Évidemment, c'est un euphémisme, puisque du coup, Tu prends les mecs qui font des mauvaises saisons, tu prends Bertans, Dinwiddie, tu les mets dans un papier cadeau, tu les envoies à Dallas, tu récupères Porzingis. Bon, ça, c'est un move. Écoute, je sais pas si c'était pour essayer de sauver la saison ou si c'était pour prévoir à la saison 2022-23. C'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt bien. Je suis pas le plus grand fan de Kristaps Porzingis. On connaît les blessures, la mentalité un petit peu chelou parfois. Mais on verra ce que ça donne. Et puis, Montrezl Harrell, du coup, je vous disais, ça s'intègre pas du tout, ça fonctionne pas du tout. Donc, tu es envoyé à Charlotte contre... J'ai même pas noté contre quoi il était envoyé. Ça veut dire que ça devait pas être très très important. Mais en tout cas, les changements que tu fais à la trade deadline, ça révolutionne pas ta saison. Tu continues, on va dire, de tanker, du coup, puisque bah, t'as plus rien à jouer. Et tu flopes, tout simplement, malheureusement. Tu as développé quelques jeunes, c'est plutôt cool. Mais c'est un beau flop en 2022 pour les Wizards. Du coup, t'arrives cet été, tu te dis, bon, il y a 2-3 moves à faire quand même. Il y a 2-3 moves à faire. Le premier, à la draft, récupérer en choix numéro 10, du coup, un petit Johnny Davis, donc un swingman qui pourrait jouer à côté de Bradley Beal, pourquoi pas dans le futur, ça on verra. Mais un gros potentiel, que ce soit offensif et défensif, NBA ready, je pense, Johnny Davis, j'ai pas relu dernièrement, mais NBA ready, donc voilà, tu prépares potentiellement le futur tranquillement, voir s'il apporte tout de suite, tant mieux, sinon bah, tant pis, c'est pas grave, tu l'enverras dans un trade pour récupérer des joueurs plus intéressants. Autre move qu'il fallait absolument faire, tu mets le Supermax sur Bradley Beal, 251 millions sur 5 ans, c'est énorme, c'est le prix d'un franchise player. Est-ce que c'est vraiment un franchise player qui emmène une équipe au bout, donc c'est-à-dire au titre NBA? Je ne suis pas sûr, je ne pense pas que ce soit le cas pour Bradley Beal. Alors c'est un super joueur offensif, je l'adore. Voilà, il nous a montré qu'il était capable de faire des folies, que ce soit au scoring, à la passe. C'est un gars qui est capable de faire tourner le ballon. J'essaie de regarder ce qu'il a fait, voilà, 6,6 assists la saison dernière, c'est très propre. Mais est-ce que c'est vraiment un joueur qui t'emmène jusqu'au titre? Je suis pas sûr. Et puis voilà quoi, donc il touchera 57 millions de dollars à 35 ans, 36 ans. Ça fait cher payer pour un joueur qui a déjà 30 ans. Mais tu devais le garder, tu devais absolument le garder. Et puis il fallait reconstruire, donc enfin reconstruire. Pas vraiment une reconstruction, mais construire autour de lui en tout cas. Donc au moins il est signé, il reste chez toi, il a l'air content, tant mieux. À côté de ça, il y a des petits moves sympas quand même. Tu récupères Dylan Wright, donc petit contrat de 16 millions sur 2 ans. Tu prends Taj Gibson qui était coupé par les Knicks, ça c'est un régal. Deux mecs qui savent ce qu'ils doivent faire en sortie de banc, c'est des bons gars en plus, genre Taj Gibson c'est un mec qui passe partout, un vétéran qui va aller taper sur les épaules des jeunes et leur dire bah voilà tu fais ça machin, c'est très très cool. T'as aussi ce petit trade entre Denver et les Wizards qui envoie KCP, donc ça c'est plutôt chiant quand même, c'est bien relou d'avoir perdu Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith qui joue donc dans sa 27e franchise en autant de saisons. Non, je déconne, mais bref, vous avez capté. Et ils sont échangés contre Monte Morris et Will Barton. Moi, c'est un trade que j'aime beaucoup. Honnêtement, tu perds KCP, mais tu récupères deux joueurs qui seront sur le backcourt, qui vont jouer en sortie de banc ou pas. Je vais l'aborder juste après. Mais j'aime bien l'arrivée de ces deux joueurs. C'est très intéressant. Et ça te fait de la profondeur. Ça te fait de la profondeur. Tu en as besoin. Dans une équipe qui veut jouer quelque chose cette année, t'as besoin d'avoir de la profondeur, on sait jamais si t'as une blessure, machin, c'est des mecs qui sont là, pareil, c'est comme les Dylan Wright et les Taj Gibson, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils vont pas se prendre pour je ne sais quoi, ils sont là, ils font leur taf et basta, donc c'est très propre. Ça c'est ce qui s'est passé cet été, c'est les moves les plus intéressants, j'ai pas tout noté comme d'habitude, vous savez, j'ai noté vraiment ce qui était le plus intéressant. Et voilà, j'aime bien ce petit été de Washington. Tu perds pas grand-chose, tu signes Bradley Beal, t'as un bon joueur à la draft. Franchement, c'est plutôt propre. Maintenant, il va falloir se projeter sur la saison 2022-23. Et là, il y a pas mal de questions quand même. La première question, selon moi, après je me trompe peut-être, hein, vous me dites si je dis des bêtises, mais c'est que où est-ce que tu vas faire jouer Bradley Beal et Kristaps Porzingis? Parce que ce sont deux joueurs qui seront dans ton 5 majeur, c'est sûr, deux joueurs très importants. C'est bien, t'as un leader, un lieutenant, c'est plutôt cool, ok. Maintenant, est-ce que tu fais jouer Bradley Beal en poste 1, en poste 2? Parce que on a vu par exemple chez les Pels que tu prends un swingman qui est donc CJ McCollum, qui est pas très grand, qui porte bien le ballon, qui est capable de faire des passes, qui est capable de scorer, et tu l'as mis en poste 1, ça a bien fonctionné. Donc je serais curieux de voir si Wesensel y serait capable de Junior, Wesensel Junior, on n'oublie pas, de faire ce pari-là, de mettre Bradley Beal en poste 1, parce que sinon tu le fais jouer à côté de qui? Sinon tu mets Dylan Wright à côté, c'est bien, t'as un joueur qui est capable de défendre, mais est-ce que c'est vraiment un titulaire dans une équipe qui veut aller en playoff? Je suis pas sûr. Monte Morris, j'aime pas trop, ça fait un backcourt qui est assez petit, je suis pas trop fan des backcourts qui sont petits. Est-ce que tu fais jouer Will Barton à côté? Donc du coup tu mets Bill sur le poste 1, Will Barton sur le poste 2. Comment tu fais? J'avoue que c'est une question qui me. Je me suis, en tout cas, je me suis posé la question en préparant la preview. Donc, je serais curieux de voir ça. Et puis après, la fameuse question sur Porzingis, est-ce que c'est un poste 5? Est-ce que c'est un poste 4? Si tu le fais jouer en 4, qui est-ce que tu mets à côté? Est-ce que tu peux mettre Daniel Gafford et Kristaps Porzingis dans ta raquette? C'est bien, ça te fait de la taille, ça te fait de la longueur. Un mec qui peut space, un mec qui va être capable de jouer dans la raquette. Et en défense, bah, bon, Porzingis, c'est pas un super défenseur, mais au moins tu peux le mettre dans la raquette pour qu'il contre des ballons. Et puis Daniel Gafford, tu peux le faire se déplacer sur les ailiers, ce genre de choses. Quoique même pas, parce que en vrai, si tu te débrouilles, tu fais jouer Kyle Kuzma à côté qui peut prendre les ailiers ou ce genre de choses. C'est assez intéressant. Je pense que Wesensel, il va avoir du boulot là-dessus. Le 5 majeur des Wizards, il est compliqué à faire. Je sais pas trop vers quoi je m'orienterai. Est-ce que tu intègres Corey Kispert pour ajouter du spacing? Est-ce que tu intègres Denis Avdija pour intégrer plus de la défense? Est-ce que tu mets directement Rui Hachimura dans ton 5? C'est assez compliqué parce que bon, Kyle Kuzma, Bradley Beal et Kristaps, on est d'accord, c'est dans ton 5 majeur. Et après, comment tu combles ton poste du coup 3 ou 5 et comment tu combles ton poste 1 ou ton poste 2? Je trouve que c'est plutôt cool, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas si j'ai pas regardé si les Wizards avaient joué des matchs de saison de pré-saison pardon. Je vais aller regarder ça tout de suite en live si vous m'accordez quelques instants pour voir ce qui a été proposé comme 5 majeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, sur le premier match qui a été joué face aux Warriors, bon, t'avais pas Bradley Beal, mais du coup tu mets Will Barton et Monte Morris sur les postes 1-2, ça me semble très correct. Tu fais jouer Porzingis au poste 5 et tu mets Hachimura Kuzma sur les ailes. Ça c'est plutôt propre en vrai. Bon, évidemment tu rajoutes Bradley Beal, mais c'est propre. T'as de la taille parce que les mecs ils sont pas petits. Kuzma il fait quoi? 6-9 et Hachimura il fait 6-8. Donc t'as vraiment de la taille. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de front court. Mais est-ce que tu veux mettre Porzingis dans ton poste 5? Bon voilà. Après je suis pas le plus grand fan du laiton, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais Wesensel, il a du boulot là-dessus. Mais t'as un bel effectif pour le coup quand tu te poses ce genre de questions où t'as beaucoup de joueurs intéressants à mettre dans ton poste dans ton 5 majeur pardon. Ça veut dire que t'as des joueurs intéressants sur le banc. Et franchement, je l'ai dit, hein, Monte Morris, Dylan Wright, voir ce que donne le petit Johnny Davis, Denis Avdija, Corey Kispert. T'as des mecs qui savent défendre. T'as pas énormément de défense, mais t'as 2-3 gars qui peuvent se la donner. T'as des gars qui peuvent écarter sur les 3 points. T'as des gars qui, je l'ai déjà dit avec Taj Gibson et les autres, qui connaissent leur rôle. T'as des soldats, ils savent pourquoi ils sont là, ils sont dans une équipe qui veut être compétitive. Donc, ils la ferment, ils jouent leur basket et ça se passe très bien. Donc franchement, cette équipe, elle peut cliquer, ça peut cliquer, je les vois bien quand même en playoff cette année. Pareil, on n'arrête pas de le dire, ça, on le dit, tout le monde le dit partout, mais c'est impossible de faire un classement facilement, entre guillemets. Donc, tu finis quoi? Top 10, top 9, top 8? Ça, je pense que ça finit quand même dans le play-in Washington, peut-être le temps que ça se mette pardon, en marche, le temps que Wesensel y trouve bah, ses rotations, voilà, machin, truc. Donc ça peut cliquer très très fort, je pense. Offensivement, ça peut être incroyable, parce que tu as des gars qui savent porter le ballon. Les Kyle Kuzma, ça fait des passes, c'est capable de passer le ballon. Bradley Beal, bah, bon, je vais pas les répéter, mais tu as des gars qui offensivement sont hyper intéressants. Défensivement, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est là où... Où cet effectif et cette équipe va pêcher un petit peu et où du coup tu les vois pas top 4 ou top 3 de la conférence Est. Mais franchement, avec le début de saison qu'ils ont fait l'année dernière, on est prêt à tout. Tu peux avoir quelques blessures, je le souhaite à personne évidemment, mais tu as des postes qui sont doublés, triplés, donc ça peut aller loin, ça peut bien cliquer, ça peut aller loin. J'ai envie d'être positif, de croire en cette équipe des Wizards qui nous envoie un petit peu de magie là. Et puis surtout, ah, et j'ai même pas parlé de ça, je l'ai déjà mis sur Insta, ils ont le plus beau maillot de la saison 2022-2023, ce maillot rose là avec ce short en dégradé qui fait penser au Sakura, évidemment, les fleurs des cerisiers au Japon, je crois que c'est ça la référence, vous me dites si je dis des bêtises. Mais on a fini avec ce petit tour d'horizon des Washington Wizards, équipe à potentiel, joli potentiel. Et on va parler du coup d'une autre équipe à potentiel avec la conférence Ouest, direction les Kings, direction le Soleil, la Californie. Let's go! Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Really? It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just playing fucking stupid, man. Ah, les Kings. Les Kings, ils sont marrants quand même. J'ai vraiment l'impression d'être un prof en conseil de classe et de taper encore une fois sur le même élève. Non, alors pas taper sur l'élève parce que on n'a pas le droit, mais de dire encore une fois, bah il peut mieux faire, c'est une saison galère, ça finit 12e, 30 victoires, 52 défaites, t'es 12e pour la 5e fois en 6 ans. Fais quelque chose un petit peu, bouge-toi les Kings, bougez-vous. Mais en même temps, cette franchise, elle est un peu maudite quoi, entre les GM, les coachs, bah, c'est pas ouf d'être fan des Kings. Et puis bon, ça fait longtemps, c'est que les fans des Kings, ils mangent pas mal. Mais peut-être, pourquoi pas relever la tête en 2023, on va voir ce qu'on peut attendre des Kings. Mais d'abord, petit retour sur la saison dernière. Bon, premier bon point que j'accorde à l'élève Sacramento Kings, t'as enfin viré Luke Walton. Enfin, tu dégages ce coach qui n'est pas capable de coacher, donc... Ah, tu peux souffler et commencer, je sais plus à quel moment de la saison il a été viré, enfin je sais qu'il a été viré quand il y avait ce fameux match avec le spectateur qui vomit sur le terrain, c'est absolument horrible, ou pas forcément tout de suite après le match, mais en tout cas dans cette zone-là, mais je me souviens plus chronologiquement où ça se situait. Et puis du coup, t'as Alvin Gentry qui prend les rênes de l'équipe, pas sûr de la plus-value, mais au moins... T'as plus Walton, c'est cool. Et puis t'as un mec qui est capable de jouer avec la pace, qui est capable d'envoyer de l'attaque. Quand t'as D'Aaron Fox, c'est plutôt cool d'avoir Alvin Gentry en coach. Mais D'Aaron Fox n'a pas non plus fait une bonne saison. Autour de lui, bon, on s'attarde un peu sur D'Aaron Fox. C'est quoi, quatrième saison dans la ligue. Il chauffait tranquillement. Il devenait de plus en plus bon. Et là, franchement, alors problème de blessure parce que ça joue pas tous les matchs, mais sur les stats et tout, c'est assez compliqué. Assez compliqué. À côté de lui, en plus, tu as un Tyrese Haliburton qui rayonne de ouf. Le mec, il finit les matchs, il est clutch comme je sais pas quoi. Il a le sourire, il est heureux d'être là. Mais ça va pas durer. Bon, de toute façon, on a parlé de la preview des Pacers, donc... On le sait, hein, à la trade deadline, il y a eu quelques mouvements chez les Kings. Mais on va d'abord parler des autres joueurs autour de ces deux-là. T'as Harrison Barnes, fidèle au poste, qui fait son taf, il envoie ses 16 points, il joue ses 70 matchs. Il est bon, voilà, c'est bon, mais sans plus. T'as Dumo Harkless, c'est pareil. Bud Hield, qui fait son taf. Trinton Thompson... T'as pas mal de joueurs. Encore une équipe, je l'ai pas dit pour les Wizards juste avant, mais on est encore dans des équipes qu'on fait jouer pas moins de 25 mecs ou 26, entre 25 et 30 gars. Donc ça commence à faire beaucoup dans une seule saison. Mais voilà, t'as des jeunes, un jeune qui galère, d'autres qui font kiffer, parce que Tyrese il fait kiffer, Davion Mitchell il fait kiffer sur la défense, le rookie, si je dis pas de conneries, Davion Mitchell, oui, rookie cette année. Je suis déjà perdu avec le nombre d'années qu'ont joué les joueurs. Mais en sortie de banc, capable de porter un peu le ballon, de défendre beaucoup, c'est plutôt cool. Mais Monte McNair, le GM, lui, il s'en fout. Il voit que l'équipe, elle fonctionne pas. Il se dit, on a changé de coach. Écoutez, on va aussi changer le joueur. Tu dégages à Liberton, déchirement pour les fans de Sacramento. Direction Indiana, tu mets ça avec Buddy Hield et Tristan Thompson. Tu fais venir du coup Domantas Sabonis, plutôt cool. Franchement, le duo Domantas Sabonis, D'Aaron Fox, on va voir la saison prochaine. Est-ce que c'est vraiment un duo qui peut te faire aller en playoff? Ça peut le faire en passant par le play-in, mais ça peut être un bon duo. Honnêtement, ça peut être un bon duo. Tu récupères aussi Jeremy Lamb. Et alors, Holiday, c'était qui jouait? Qui est-ce qui jouait? C'est Justin qui jouait chez les Pacers. Pareil, Marvin Bagley, j'en ai même pas parlé au début, mais Marvin Bagley, le projet est avorté. Voilà, ce fameux choix numéro 2 de la draft 2019, maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises. Au pire, on me contredira. Le projet, c'est fini. Direction Détroit, tu as Dante DiVincenzo et Josh Jackson qui arrivent. Bon, voilà. Ça, c'est la trade deadline. Et puis, sur la seconde partie de la saison, tu as quelques flashs entre Sabonis et Fox. C'est assez sympa. Sabonis, il vient, il fait ses chiffres. Il joue que 15 matchs, hein, donc c'est pas beaucoup, mais il envoie ses 19 points. Il prend 12 rebonds par match. Il est énorme comme Sabonis. 6 passes décisives. C'est un joueur qui envoie des statistiques monstrueuses. C'est vraiment, vraiment dingue. Mais bon, on a fait le tour, de toute façon. On a fait le tour. Encore une saison très moyenne. Tu changes les choses, au moins. On peut pas dire à Monte McNair qu'il n'a pas changé les choses. Franchement, je sais plus quand est-ce qu'il a pris son poste de GM, lui. Il l'a pris 2020, parce que voilà, Divac, il est viré à l'été 2020. Donc bref, Monte McNair, il change les choses. Et puis, bah, on va voir ce qui se passe à l'été et ce qui va se passer sur la saison prochaine. C'est ça qui nous intéresse, finalement. Déjà, premier move, ou presque, de l'été. Tu changes de coach. Alvin Gentry, il est bien gentil, mais c'est pas top. C'est pas top pour la construction d'équipe. Du coup, tu prends Mike Brown. Mike Brown, nouveau coach, nouvelle vie. Je suis pas persuadé de ça. Honnêtement, c'est bien. C'est un mec qui a coaché LeBron, ou que LeBron a coaché, du coup, je sais pas trop. C'est un mec qui a été aux côtés de Steve Kerr chez les Warriors, là, dernièrement, qui a connu les épopées des Warriors, donc c'est plutôt cool. Mais son niveau à lui en tant que head coach, j'en suis vraiment pas perçu. Je suis vraiment pas persuadé que ce soit un bon head coach. On verra. Je lui laisse le bénéfice du doute. Il atterrit dans une nouvelle équipe, il a de l'expérience. C'est plutôt cool. Ok. À côté de ça, t'as la draft et tu as le choix numéro 4. Donc on se dit, les Kings vont avoir une bête de joueurs parce que pour le coup, la draft, elle était très intéressante. Il y avait beaucoup de joueurs, on va pas se le refaire. Les Chet, les Jaden Ivey, bon, tous les gars dont j'ai un petit peu parlé sur les previews précédentes. Et là, avec ton choix numéro 4, tu vas récupérer Keegan Murray. Alors, bon, petite surprise, évidemment, on a l'habitude, les Kings, ils nous régalent avec ce genre de surprise. Mais franchement, il y a un bout de potentiel. Un bout de potentiel, je suis vache. Hein. Mais le gars a déjà, entre guillemets, 22 ans, si je dis pas de conneries, je crois que c'est un 2000. Donc il est un peu plus âgé que le reste de la draft. C'est un fort scoreur, un fort rebondeur. Il fit parfaitement, on en parlera juste après. Dans l'équipe, à l'instant T, il fit nickel. Mais quel plafond il va avoir? On sait que quand tu prends dans le top 5 de la draft, tu veux un mec au plafond inégalé. Tu veux 3,40 m de hauteur sous plafond. Je sais pas dans quelle phase de rap c'est, mais il y a forcément un rappeur qui a dit un truc comme ça. Donc, bref, je m'égare. Donc, petite surprise, mais on a vu en Summer League, il a fait une très 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 grosse Summer League, MVP de la Summer League, comme Davion Mitchell. Et oui, Davion Mitchell aussi a été MVP de la Summer League. Ça veut tout et rien dire. Il y a des mecs très bien qui ont été MVP de la Summer League. Je pense à des Blake Griffin, il n'y a pas des Ben Simmons, il y a des bons joueurs, mais il y a aussi des mecs qui ont été oubliés, et je les ai oubliés, je ne pourrais pas vous les citer. Mais en tout cas, voilà, ça pose le bonhomme, on voit qu'il est prêt, le mec est NBA ready, Et même là, je crois que sur le premier match de pré-saison, il a démonté un peu les Lakers. Donc ça fait plaisir. Après, à côté de ça, il n'y a pas eu des milliards de moves. Oui, il y a des arrivées, des départs, mais bon, je ne vais pas vous lister tous les arrivées, tous les départs de chaque équipe. Ça n'a pas de sens. On veut les gens qui sont intéressants. Et parmi les gens qui sont intéressants, t'as signé un petit Malik Monk, comme ça, hop, derrière les fagots là. Le gars, il était prêt à signer chez les Lakers, et en fait, bah non. Moi, j'aurais bien aimé, mais bon, c'est pas grave. Donc, tu rajoutes du shoot. Tu as aussi Kevin Huerter qui arrive, tradé contre Justice Winslow et Mo Harkless, si je dis pas de bêtises. Donc, pareil, du shoot. Et le GM des Kings, il a vu les pourcentages au tir de De'Aaron Fox, il a dit, ok, tu prends la balle. Tu tires pas, tu passes à tes collègues qui sont dans les corners là. Tu vois les Malik Monk et les Kevin Huerter, le rouquin et le mec avec ses cheveux de Jackson 5. Tu passes le ballon et eux ils vont tirer, t'en fais pas. Donc ça c'est franchement ces deux arrivées qui sont bien kiffantes. Après t'as un petit Ken Bazemore, petit Quinn Cook. Bon, ça mange pas de pain, ça sortira du banc en troisième option. Plutôt cool. Et dans les départs t'as Damian Jones quand même qui s'en va. Et c'est une bonne question. J'ai rien noté d'autre. Mais bon, bref, vous avez compris. Pas d'énormes moves, mais attention, 2-3 pièces qui peuvent te faire passer un step. Ah, en parlant bon, il te fera pas passer un step, mais t'as Chima Moneke qui débarque. Pour ceux qui connaissent pas Chima Moneke, gars nigérien, alors nigérien, nigérian. Là, je suis un peu paumé, je suis désolé. Mais qu'a joué à Orléans? Eh oui, bien sûr, petit coup de pub pour Orléans, bien sûr. Qui jouera sur le poste quoi? Il jouera sur les ailes, Chima Moneke, avec sa dégaine, là, ses lunettes, cette coupe de cheveux un petit peu originale. Je vous laisse aller voir pour ceux qui ne connaissent pas. Joueur hyper athlétique pour avoir eu l'occasion de le voir jouer à Orléans. Hyper athlétique, assez impressionnant. Pareil, on verra ce que ça vaut en sortie de banc. Ça grattera quelques minutes, ça changera pas la face du monde, mais ça me fait plaisir de le voir chez les Kings. Je suis très heureux pour lui. Du coup, on se projette vers la saison 2022-2023. Je le disais, pas d'énormes changements. Ça va, je pense que tu en as fait assez durant la saison dernière. Mais une belle équipe. Au final, tu as une belle équipe. Si je dois faire vite fait un 5 majeur plus des remplaçants. Du De'Aaron Fox sur le poste 1, tu fais jouer Kevin Huerter en 2, évidemment. Poste 3, Harrison Barnes, le mec est indélogeable. Et puis tu mets Keegan Murray et Domantas Sabonis dans la raquette. Bon, Sabonis, c'est un peu comme Porzingis. Des petits doutes sur sa capacité à vraiment jouer poste 5. Parce que sinon, sinon, faut mettre quoi? Sinon, c'est une bonne question. Tu mets Keegan Murray sur le banc et tu fais jouer Rishon Holmes à côté de Domantas Sabonis. Ça peut se faire aussi. Mais Rishon Holmes en sortie de banc, cette espèce d'animal en sortie de banc, je crois que j'en ai pas parlé au début du podcast. Mais bref, il a fait sa saison l'année dernière. Très propre. Donc, toujours quand tu as un mec comme ça qui est capable d'envoyer du bois en sortie de banc, d'épuiser des défenses, c'est toujours intéressant. Donc, je préfère le mettre sur le banc. Puis voilà, Malik Monk aussi en sortie de banc, je l'ai dit, Ken Bazemore, Chima Moneke, bon, de là, au poste 5, tu as du Alex Len que tu peux faire jouer un petit peu, Davion Mitchell, évidemment, Davion Mitchell pour être le leader de ce banc. Voilà, tu as une belle équipe. Offensivement, bah, quand tu as Sabonis et Fox, ça peut envoyer du bois, clairement, ça peut être très impressionnant. Défensivement, honnêtement, va falloir s'accrocher, je pense. Je pense que les Kings étaient 27e défense l'année dernière. Je les vois pas être beaucoup mieux. Si tu arrives à accrocher déjà le 20e rating défensif, ce sera pas mal. T'as personne qui est un élite défenseur. T'as Davion Mitchell, c'est bien, mais il est petit et il est limité sur les postes 1-2. Et puis derrière ça, wow, ça va être assez chaud. Donc défensivement, on regardera pas, mais offensivement, ça peut envoyer du bois, comme je l'ai déjà dit. T'as Fox, De'Aaron Fox, qui doit step up, franchement. Est-ce que c'est son équipe? Est-ce que c'est l'équipe de Sabonis? Il y a cette petite question à se poser sur la saison qui arrive. Est-ce que Fox step up vraiment? Et on est en mode, ok, c'est lui le franchise player. Il n'y a pas de question à se poser. C'était déjà le cas sur les saisons précédentes, mais avec la saison dernière et un Sabonis. Qui est un joueur sérieux, la question va se poser. Peut-être qu'il y aura cette espèce de passation. Après, ils peuvent très bien être co-leaders, on va dire, de ces équipes. Par exemple, à Chicago, ça fonctionne bien. Tu as DeMar DeRozan qui est arrivé. C'était pas vrai, c'est pas du tout son équipe. Par contre, il a envoyé du bois. Le duo avec Zach LaVine, ça s'est bien passé. Et puis ça a bien déroulé comme ça. Bon, il y a eu d'autres limites, on en parlera. Mais ça peut le faire comme ça. Franchement, j'y crois. J'y crois à ce petit duo. Je pense pas qu'ils t'emmènent en finale de conférence, mais ils peuvent t'emmener en playoff déjà, et ce serait une très bonne nouvelle pour les Kings. Pour parler un petit peu de Keegan Murray, je pense qu'il a intérêt à être prêt pour la saison. S'il commence pas sur le poste 4, je vais pas aller regarder comme j'ai fait tout à l'heure pour le 5 majeur des Wizards en pré-saison. Je vais pas aller regarder s'il a démarré le match, parce que j'en suis quasi sûr. Mais donc, ce sera hyper intéressant. Pareil, franchement, le fit, ça va glisser tout seul. Gros, gros potentiel offensif, comme j'ai pu le dire. Donc, pareil, ça va envoyer du bois. Faut que j'arrête de dire ça. Je pense que là, je vous l'avais assez entendu. J'ai construit une forêt dans le podcast. Donc, j'y crois, ces Kings. Je pense qu'ils peuvent être. Il suffit que tu aies un mec qui sort du banc et qui soit un peu une surprise. Je sais pas, genre. Je regarde l'effectif, j'ai pas trop d'idées en tête là tout de suite, mais qui pourrait être une belle surprise en sortie de banc? Ouais, bon, on verra. Mais il suffit que t'aies un mec qui en sortie de banc soit une jolie surprise pour te dire, ah tiens, ok, parce que t'as un peu de banc, mais c'est pas non plus la folie, faut pas que t'aies de grosses blessures. On parlait des Wizards, honnêtement, je préfère avoir l'effectif des Wizards que l'effectif des Kings, mais ça peut jouer. Les Kings peuvent être sérieux et ça peut aller gratter sa petite place au play-in. Et sur un malentendu, hop, tu chopes ta petite qualif pour les playoffs, tu t'es 8e, tu te fais balayer par le premier, et puis on n'en parle plus. Et puis ce sera un step-up comparé à la saison dernière, et ce sera une saison réussie. Donc voilà, pareil, je pense qu'on a fait le tour pour les Kings. Vous avez mon avis. Je suis positif, hein. Globalement, je suis très positif. Bon, il y a des équipes où ce sera difficile d'être positif. Mais sur les Kings et les Wizards, je suis très positif. J'ai envie de voir ces équipes réussir. Vous le savez, de toute façon, j'aime tout le monde. Voilà, donc je distribue de la positivité partout. Merci d'avoir écouté le podcast comme d'habitude. Venez discuter sur Insta, me dire si j'ai dit des bêtises, si vous avez des compléments à m'apporter, si juste c'est votre équipe favorite et du coup vous voulez qu'on en discute un petit peu. Ce sera avec grand plaisir. Aussi, abonnez-vous sur la plateforme de podcast où vous écoutez, laissez des étoiles. Bon, ça je le dis au début, mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de le dire aussi à la fin là, ça me fait plaisir. Partagez le podcast, ça fait aussi plaisir. Et je vous dis du coup une bonne journée. Une bonne après-midi ou un bon après-midi puisqu'on peut dire les deux ou une bonne soirée. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine preview, les places numéro 11. Salut, prenez soin de vous!